Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci de votre fidélité à Radio Kapi, la radio de la paix. Voici votre grande édition des 18h en ce vendredi 22 mai 2026. Les principaux titres. Ebola en Ituri après la psychose. La riposte reprend les déçus. À Rwampara, patients et soignants font leur retour au centre de traitement après une vague de panique provoquée par des tensions communautaires. Vie chère en RDC, quand c'est mourir devient un combat. Inflation de prix alimentaire, marché sous tension, familles à bout, la crise alimentaire s'installe durablement. Au Sénat, le ministre Muhindo Nzangi sommet d'expliquer les difficultés à transformer les potentiels agricoles en solutions concrètes. Ebola, la Tchopo en alerte maximale, riposte renforcée, frontières sanitaires sous contrôle. Simon Bokongo répond à nos questions en fin de journal. Un entretien à suivre absolument. Entre urgence sanitaire, tension aux frontières et pouvoir d'achat sous pression, l'actualité reste sous haute tension en RDC. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Après la panique, le retour au calme et aux soins. En Ituri, reprise effective des activités ce vendredi au centre de traitement d'Ebola de l'hôpital général de référence de Rwampara en périphérie de Bunia. Quatre patients qui avaient quitté précipitamment les lieux jeudi suite à des tensions au sein de la communauté, ont regagné la structure sanitaire. Selon le chef du groupement Chari, la situation est désormais maîtrisée. Un meeting populaire organisé la veille a permis de sensibiliser la population sur la réalité de l'épidémie d'Ebola et sur l'importance cruciale du respect des mesures préventives. Un papier signé Isaac Remoyope, rendu par Jean Gandou.
Le centre de traitement d'Ebola de Rwampara fonctionne de nouveau normalement depuis jeudi soir, affirme le chef de groupement Chari. Le personnel médical ainsi que quatre cas suspects qui avaient pris la fuite jeudi à la suite des tensions enregistrées dans cette structure sanitaire ont regagné le site de traitement. Des sources locales rapportent que les patients sont désormais pris en charge dans un bâtiment de l'hôpital après l'incendie des deux tentes qui servaient des lieux d'isolement des malades dans cette structure médicale. Toutefois, les autorités locales demandent aux autorités sanitaires d'accélérer les travaux de construction du centre de traitement afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients qui affluent dans cette zone. Pour prévenir de nouvelles tensions, le chef local a organisé un meeting populaire afin de sensibiliser la population sur l'existence réelle de cette épidémie qui a déjà causé plusieurs décès dans le milieu. Il a également appelé les habitants à respecter strictement les mesures barrières, notamment la distanciation physique, le lavage régulier de mains et l'interdiction de tout contact avec le corps des victimes. Du côté des autorités sanitaires, aucune réaction officielle n'a encore été enregistrée jusqu'à ce vendredi.
Vigilance maximale au Nord Kivu, à Butembo, Beni. L'église catholique monte au front. Le diocèse catholique de Butembo, Beni s'engage dans la riposte contre Ebola. Dans un communiqué pastoral publié le 20 mai, Monseigneur Sikuli Paluku appelle les fidèles et l'ensemble de la population à respecter strictement les mesures sanitaires. Cet appel intervient alors que le variant Bundibuyo du virus Ebola a été signalé en RDC ainsi que dans l'Ouganda voisin, faisant craindre une nouvelle propagation. Détail avec Martial Papimukeba.
Dans son communiqué pastoral, Mgr Sikuli Paluku Melchisedek rappelle que les variants Bundibugyo du virus Ebola ne disposent ni des vaccins ni des traitements spécifiques, d'où la nécessité d'une vigilance accrue et du respect strict des mesures barrières. Il insiste sur les rôles des communautés religieuses dans la sensibilisation et la prévention en fait de freiner toute propagation de la maladie dans les zones à risque. L'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni demande la réinstallation des dispositif de lavage des mains dans les lieux de culte et recommande la présence d'agents chargés de veiller au respect des règles d'hygiène, l'usage de l'eau chlorée, de l'eau de Javel, le port du masque ainsi que les désinfectats sont également encouragés. Les prélats annoncent par ailleurs la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'échange des mains comme signe de paix, dira les célébrations eucharistiques. Cette mesure vise à réduire les contacts physiques directs dans un contexte d'alerte sanitaire renforcée. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Frontières fermées, activités au ralenti. Le poste frontalier entre Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda sont désormais totalement fermés à tout mouvement migratoire. Aucune communication officielle n'a encore été publiée, mais plusieurs sources concordantes évoquent un renforcement des mesures du côté rwandais. Ces restrictions prolongent la fermeture partielle en vigueur depuis dimanche dernier aux deux principaux points de passage, la Petite et la Grande Barrière. Conséquences immédiates, les échanges commerciaux et les activités transfrontalières sont fortement perturbés. Reportage Bernard Denyangi.
Travailleurs, élèves et petits commerçants transfrontaliers ont vu depuis ce vendredi matin leur dernier espoir d'amélioration de la situation s'envoler. Les femmes et petites commerçantes de poules, par exemple, qui espéraient un soulagement grâce à des solutions alternatives impliquant des transporteurs rwandais, s'inquiètent désormais d'une attente prolongée. Berthe Anabintou, l'une d'elles, témoigne.
Nos partenaires rwandais, ce sont eux qui nous envoient la marchandise. Tous les jours, on nous dit d'attendre, mais on ne reçoit rien. Aujourd'hui, on nous avait demandé d'attendre les camions, mais il n'est jamais arrivé. Franchement, ça augmente encore notre souffrance.
Par ailleurs, certains ressortissants congolais vivant à Gisenyi que nous avons joints ce matin affirment que le gouvernement rwandais a procédé à la fermeture totale de ses frontières avec la République démocratique du Congo. Alors que depuis mardi, les élèves des étudiants de Goma ainsi que des travailleurs transfrontaliers étaient encore autorisés à traverser sous strictes conditions, ce vendredi matin, tout accès est totalement suspendu, sans indication sur la durée de cette mesure, en l'absence de communication officielle. Rappelons que ces restrictions sont en vigueur depuis dimanche, à la suite de la confirmation d'un premier cas d'Ebola à Goma.
Dans ce contexte, l'Ouganda annonce la suspension des vols en provenance et à destination de la RDC en raison de la propagation du virus Ebola dans les deux pays. Cette mesure rendue publique jeudi par Alan Kasuja, chef du centre de presse gouvernementale, via un message sur les réseaux sociaux X, entre en vigueur dès ce samedi. Par ailleurs, le transport transfrontalier des passagers, notamment par bus et ferry, est interrompu pour une durée de 4 semaines, tandis que le transport de marchandises et des denrées alimentaires demeure autorisé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a de son côté déclaré que l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda constitue une urgence des santé publique de portée internationale, soulignant ainsi la gravité de la situation et la nécessité de mesures renforcées. Autre front sanitaire, ailleurs dans le pays, l'inquiétude grandit. La province du Haut-Uele enregistre désormais le taux de prévalence du VIH-Sida le plus élevé en RDC, 7,4% selon une enquête menée entre 2023 et 2024 par le Programme national de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs facteurs aggravent la situation. Persistance de certaines pratiques coutumières, afflux massif dans les zones minières, mais aussi une rupture totale des stocks de préservatifs depuis près de 2 ans. Débordé par l'ampleur de la crise, le coordonnateur provincial du PNMLS lance un appel urgent aux autorités pour une intervention rapide. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Le Haut-Uele fait face à une crise sanitaire majeure. La province détient désormais le triste record du taux de prévalence du VIH-Sida, le plus élevé de la République démocratique du Congo, culminant à 7,4%. Un chiffre alarmant qui s'explique par une combinaison de facteurs culturels, économiques et structurels, comme nous l'explique Arthur Lissako, coordonnateur du Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida.
Ici, avec les phénomènes Sorora, Levira et consorts, ça c'est d'abord ce qui est dans la coutume. Et puis, avec la présence de d'un grand nombre de foyers miniers, il y a un nombre de gens qui n'ont pas reçu le message de protection. Et avec les vagabondages sexuels et avec le grand nombre de carrés miniers.
Le coordonnateur du PNMLS Haut-Uele lance un cri de détresse aux autorités du Siro et de Kinshasa. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions d'habitants du Haut-Uele qui se retrouvent directement exposés et menacés par la progression de la pandémie, déclare Arthur Lissako. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À travers tout le pays, le quotidien des ménages s'est durci. Se nourrir devient un combat de tous les jours. Sur le marché congolais, le prix des denrées alimentaires continue de grimper. Dans plusieurs provinces, l'insécurité alimentaire persiste malgré le potentiel agricole considérable du pays. Une situation jugée préoccupante au cœur de la plénière du Sénat ce jeudi. Les sénateurs ont auditionné le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mouindo Nzangi, à la suite d'une question orale avec débat initiée par le sénateur Wilkie Isundala Asong. Les explications avec Grace Amzati.
À travers cette démarche, le Sénat voulait obtenir des réponses sur les difficultés persistantes du secteur agricole congolais, alors que plusieurs provinces restent confrontées à l'insécurité alimentaire et à la hausse des prix des denrées de base. Le sénateur Wilkie Isundala Asong a demandé au gouvernement d'expliquer les mécanismes mis en place pour relancer la production agricole nationale et réduire la dépendance alimentaire extérieure de la RDC. Il a également insisté sur l'amélioration des routes de desserte agricole, l'accès aux semences, aux fertilisants, à la mécanisation ainsi qu'au financement du secteur. Face à ces préoccupations, le ministre Mouindo Nzangi a présenté les orientations du gouvernement pour moderniser l'agriculture congolaise. Selon lui, un document stratégique a été élaboré autour des 5 piliers. Les semences, les fertilisants et pesticides, la mécanisation agricole, l'encadrement des agriculteurs ainsi que les stockages, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le débat qui a suivi a permis à plusieurs sénateurs de faire remonter les réalités vécues dans leurs provinces respectives, avec une même conséquence, la hausse continue des prix des produits alimentaires et la faim qui touche de nombreuses familles congolaises.
Qui délivre réellement les permis de construction ? En province du Haut-Katanga, un conflit oppose la division provinciale de l'urbanisme au guichet unique de délivrance de permis de construction GUPEC. Les agents de l'urbanisme accusent les GUPEC d'empiéter sur leurs prérogatives. Mais pour les directeurs provinciaux du GUPEC, ce service vise au contraire à assainir et à organiser le secteur. Résultat, deux circuits parallèles de délivrance de permis, ce qui plonge les habitants de Lubumbashi dans une grande confusion administrative. Explication avec Pone Munanga.
Depuis plusieurs années, la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga délivrait les permis de construire. Mais à partir de 2022, il y a eu la création du guichet unique de délivrance des permis de construire en RDC à la suite d'un arrêté ministériel. Le directeur provincial de ce guichet unique dans le Haut-Katanga annonce que son service est venu remettre de l'ordre dans ce secteur. Souviens Kisimba.
Le GUPEC est venu combattre tout ce qui était comme antivaleur. Le GUPEC est venu mettre de l'ordre dans le octroi de permis. La plupart de ceux-là qui construisaient n'avaient pas même le permis. Même la procédure était difficile pour avoir le permis de construire. Mais aujourd'hui, avec la création des GUPEC, les gouvernements ont facilité les choses pour avoir ces permis.
De leur côté, les agents de la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga accusent les GUPEC d'empiéter sur les attributions de la division de l'urbanisme. Huguen Chibouyi est membre de la délégation syndicale de cette division provinciale.
Il y a eu une réforme au sein de notre ministère, on a créé un guichet. Mais il est inadmissible qu'un guichet puisse être considéré comme un service d'assiette. Ils se disent eux-mêmes établissements publics, dotés d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Nous assistons à de l'urbanisme parallèle, parce que GUPEC est en train de prendre les attributions de l'urbanisme.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Formé pour offrir une seconde chance à la jeunesse. À Boma, au Congo central, l'Institut national de préparation professionnelle, l'UNPP, accélère la formation des jeunes. Au premier trimestre 2026, 852 personnes ont été formées dans plusieurs domaines clés. Conduite automobile, bureautique, secrétariat ou encore anglais. Un bilan présenté mercredi dernier devant les partenaires socio-économiques de l'institution. Objectif, faire le point sur les avancées et ajuster la stratégie pour mieux répondre aux besoins du marché. Mais dans une ville où le chômage des jeunes reste élevé, le défi demeure nombreux. Le directeur provincial de l'INPP Congo Central, Gogo David Kibila, revient sur ces enjeux et les perspectives pour le mois à venir. On écoute dans cet extrait proposé par Élise Kavira.
Comme vous le savez, notre province va se transformer avec deux grands projets qui sont Grand Inga et Port en eau profonde. Ça va demander une main-d'œuvre qualifiée et l'INPP doit anticiper cela, commencer à former la population dans ces métiers demandés par ces projets, afin que les capitaux qui seront injectés dans ces projets restent aussi pour la population de Boma et du Congo central. Et le défi pour nous, c'est d'améliorer nos infrastructures en termes de qualité et quantité. Nous puissions être capable de former plus de 10 000 personnes par an. Et pour cela, nous devons construire nos bâtiments de Boma, de Mwanda, de Tchela, de Inga, mais aussi être en mesure d'organiser des formations mobiles. Mais aussi, il faudrait former nos formateurs dans l'intelligence artificielle, dans l'ingénierie de la formation professionnelle.
Pour 2026, l'INPP mise sur l'innovation au programme de nouvelles filières porteuses de l'agriculture durable au génie civil en passant par l'agroalimentaire et l'hôtellerie. L'ONU réaffirme son engagement pour la paix en RDC. À l'issue de son mandat de 4 ans, le représentant spécial adjoint de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis a effectué une visite de revoir ce jeudi au ministère des droits humains à Kinshasa. Il a réitéré l'engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement congolais dans la restauration de la paix, tout en insistant sur la nécessité d'accélérer les différents processus de paix en cours. Les propos de Bruno Lemarquis qui sont recueillis par Blaise Dongala Mayanda.
La collaboration entre les Nations Unies et notamment le Bureau conjoint des droits de l'homme, BCNUDH, avec ce ministère, c'est main dans la main. On ne peut qu'espérer que tous les processus diplomatiques en cours, les processus politiques que vous connaissez bien, le processus de Washington, le processus de Doha, le rôle de médiation de l'Union africaine, avec l'appui des Nations Unies, portent leurs fruits. Ces négociations ont lieu actuellement. Pour l'instant, il y a toujours, comme on le sait, un décalage entre les discussions au niveau de ces différents processus, entre les accords qui ont déjà été signés et la réalité sur le terrain, puisque il y a encore beaucoup de zones de conflit. Le mot dans la bouche de beaucoup de Congolais à l'Est, c'est Amani, tout le monde veut la paix. La communauté internationale est pleinement engagée. Il faut l'application des résolutions qui sont passées aussi au niveau du Conseil de sécurité. La RDC est très attentive à l'application notamment de la résolution 2773 qui a été passée en février 2026, un mois après la chute de Goma et de Bukavu. Cette résolution est très claire, cette résolution dit tout, mais cette résolution, pour l'instant, est insuffisamment appliquée.
De son côté, le ministre des Droits humains, Samuel Lombimba, a appelé la communauté internationale à reconnaître les crimes commis en RDC comme des actes de génocide.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko maintient une position ferme sur la question de l'homosexualité. Face aux députés ce vendredi 22 mai, lors de la séance des questions d'actualité, la cinquième depuis l'arrivée au pouvoir du PASTEF, il a défendu sans réserve la nouvelle loi durcissant les peines de prison liées aux relations homosexuelles. Ousmane Sonko a rejeté toute idée de moratoire sur son application, affirmant sa volonté de mettre fin à ce qu'il qualifie de prolifération du phénomène. Il a également assuré que la justice ira jusqu'au bout, précisant qu'aucune personnalité ne sera épargnée, y compris parmi les proches du pouvoir, alors que plusieurs arrestations pour homosexualité présumée ont été signalées dans le pays. Cette position intervient dans un contexte marqué par l'arrestation de plus d'une centaine de personnes ces 3 derniers mois, certains étant également accusés de transmission volontaire du VIH. Parallèlement, des intellectuels africains ont récemment appelé à un moratoire sur l'application de cette loi dans une tribune publiée le 18 mai.
L'invité.
Face à la menace d'Ebola, la Tchopo passe à l'offensive et renforce sa riposte sanitaire. Avec ses liens commerciaux et sociaux étroits avec l'Ituri voisin déjà touché, la province s'est mise en alerte maximale. Mardi 19 mai, le ministre provincial de la Santé a réuni en urgence les responsables de la division provinciale de la Santé ainsi que les partenaires techniques pour renforcer la surveillance et sécuriser les frontières sanitaires internes. Quels sont concrètement les mesures prises pour empêcher l'introduction du virus dans la province? Réponse avec notre invité, le ministre provincial de la Santé de la Tchopo, le docteur Simon Bokongo, au micro de Jacques Moukonkole. Suivez.
Monsieur le ministre provincial de la Santé, bonjour. L'actualité sanitaire nous oblige à tourner nos regards vers l'Ituri voisine. La Tchopo et l'Ituri partagent d'intenses échanges commerciaux et sociaux. Quel est le niveau de risque d'importation du virus à Kisangani et dans les territoires voisins?
Je ne peux pas vous cacher, ce niveau de risque est très élevé. À Kisangani, chaque jour entrent 150 véhicules en provenance de l'Ituri, y compris les bus qui transportent des centaines de personnes. Donc, par rapport à la voie RN4, l'exposition de Kisangani est très élevée et le risque est très très majeur. Deuxièmement, nous avons la voie aérienne. Comme vous le savez, il y a un mouvement intense d'aviation entre Kisangani et la ville de Bunia. Et chaque jour, il y a des aéronefs qui quittent Bunia jusqu'à Kisangani et qui transportent des dizaines de passagers et des marchandises. Donc, l'exposition ou le risque de contamination ou de l'importation de la maladie dans la ville de Kisangani est vraiment très très élevé.
Face à cette menace invisible mais réelle, quelles sont les mesures de contingence immédiates que le ministère de la Santé a mises en place au point d'entrée et des contrôles clés entre l'Ituri et la Tchopo?
Au niveau des portes d'entrée, il faut constituer des barrières sanitaires et pour checker tout le monde qui quittera l'Ituri pour entrer dans le territoire de Bafouassende et tout le monde qui va entrer dans la ville de Kisangani. Et là, on va mettre des thermomètres électroniques ou à laser pour détecter si les passagers ne font pas la fièvre. Il y a le dispositif de lavage de mains à ces niveaux-là, notamment à Avakoubi et au PK Fin. Et ces mesures-là doivent être exportées jusqu'au niveau des grandes institutions, des écoles et partout où les gens vont se rencontrer comme dans des grands marchés, ainsi de suite. Troisièmement, au niveau de l'aéroport de Bangoka, on doit aussi mettre des mesures de sécurité très très strictes, notamment pour les passagers en provenance de l'île.
Docteur Simon Bokongo, nos structures de santé locales sont-elles prêtes à détecter, isoler et prendre en charge un éventuel cas suspect?
Détecter, non, puisque pour faire la détection, prendre la température et connaître que non, les malades fait la fièvre, les malades ont la diarrhée, les malades sont fatigués, les malades font des hémorragies. À ce niveau, mais les diagnostics, on doit envoyer au laboratoire. Mais nous pouvons déjà détecter les cas suspects qui présentent la fièvre, la diarrhée, les vomissements, une faiblesse généralisée, en dernier lieu, les hémorragies. Donc, nous pouvons diagnostiquer à partir des signes cliniques les gens qui souffrent de la maladie à virus Ebola ici à Kisangani. Mais la confirmation des cas jusqu'à maintenant, ça se fait à Tchassa, à l'INERM. Et on a déplacé aussi certains laboratoires qui seront installés à Mongwalu et à Bunia ainsi qu'à Goma pour la détection des virus dans le sang de nos malades.
Les intrants et équipements de protection individuelle sont-ils disponibles?
On a lancé un appel et l'OMS nous promet déjà avoir tous ces équipements pour les amener au site le plus avancé, c'est-à-dire qu'il est à Vap. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore été installés là où ils devraient être et les déploiements vont commencer dès demain.
Kisangani ou la Tchopo est-elle déjà touchée par le virus d'Ebola?
Non. Jusqu'à maintenant, les gens ont écrit cas suspect ainsi de suite, mais nous n'avons pas encore été saisis officiellement dans les structures appropriées de la suspicion des gens qui sont malades du virus d'Ebola.
On sait que la rumeur et la résistance sont des alliés du virus. Quel message lancez-vous aux leaders communautaires et religieux pour barrer la route à la désinformation?
La désinformation commence par l'ignorance de la maladie et la propagation des fausses alertes. Donc, ou la négation de la maladie. Ça, ce sont les trois niveaux de la désinformation. Alors, nous nous adressons aux églises. Communautaires et religieuses doivent donner des informations vraies. Et les informations vraies ne seront délivrées qu'à travers la déclaration de notre gouverneur de la province de la Tchopo, la déclaration officielle de l'épidémie par le ministre national et la déclaration ou les informations qui proviendront du CPC ou du ministère de la Santé. Donc, ce sont ces informations, ce sont ces déclarations qui seront mises à la disposition des leaders communautaires pour qu'elles soient transmises au niveau de la population. Donc, éviter la négation, éviter les exagérations, éviter de confondre Ebola avec des possessions démoniaques ou diaboliques.
Monsieur le ministre, Dr Simon Bokongo, merci.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
C'était le docteur Simon Bokongo, ministre provincial de la Santé de la Tchopo, qui répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Fin de cette édition sur Radio Okapi. Merci de nous avoir suivis. Le journal est disponible en replay sur www.radiookapi.net et sur nos plateformes digitales. Gisèle Cage à la présentation, Jude Mister Bilonda à la supervision éditoriale, Didoné Nyangasa à la mise en onde. Excellente soirée à tous et surtout, restez branchés sur Radio Okapi, la radio de la paix.